Bonjour, vous êtes sur France Culture. Tout à l'heure, la première partie de La Grande Table sera consacrée à danse et guerre, juste avant le portrait du jour d'Angelin Prège-Locage. Il est 12h30, l'heure d'écouter le journal de la rédaction présenté par Catherine Dutu. Bonjour.
Bonjour Maïs, bonjour à tous. Un regain de tension entre les forces de l'ordre égyptienne et les membres des Frères musulmans, 6 morts au moins ce matin dans des manifestations au Caire. La province d'Aden, libérée de la rébellion Houthi au Yémen, annonce ce matin du Premier ministre en exil en Arabie Saoudite. Est-ce le début d'une reconquête militaire et politique ? Analyse dans ce journal de François Frison-Roche, chercheur au CNRS. La chambre basse du Parlement allemand débat en ce moment d'un troisième plan de soutien à la Grèce. Les députés devraient suivre leur chancelier Angela Merkel et soutenir ce nouveau sauvetage. Mais la coalition pourrait aussi subir plusieurs défections. Correspondance à Berlin de Nathalie Versieux. Dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, la justice a validé ce matin les arrêtés préfectoraux qui autorisent le début des travaux du futur aéroport de Loire-Atlantique. Et puis par ailleurs, les trois suspects interpellés lundi par les services de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, vont être présentés dans la journée à un juge d'instruction. Ce matin, le parquet a requis leur placement en détention. En Égypte, au moins 6 personnes ont été tuées ce matin dans des affrontements entre la police et des manifestants pro-islamistes au Caire, des membres des Frères musulmans, confrérie désormais interdite dans le pays. Les partisans du président destitué Mohamed Morsi avaient organisé plusieurs rassemblements après les prières du matin en ce jour de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan. Des manifestations qui ont dégénéré et les forces de l'ordre ont durement répliqué. Au Caire, les précisions de François Ferkataji.
Peu après les prières de l'Aïd al-Fitr, qui marquent la fin du mois de jeûne de Ramadan, de petites manifestations ont été organisées dans la ville de Gizeh, qui borde le Caire. Les partisans des Frères musulmans n'étaient plus descendus dans les rues depuis plusieurs semaines, mais hier, Mohamed Morsi, l'ancien président issu des rangs de la confrérie et aujourd'hui condamné à mort, a fait publier sur Twitter un message à leur adresse, leur demandant de ne pas se diviser, de rester actifs et leur promettant que la révolution sera finalement un succès. Mais dans ce genre de manifestations interdites, la police égyptienne n'hésite pas à tirer à balles réelles, faisant à chaque fois son lot de victimes. Les Frères musulmans étant considérés comme organisation terroriste, responsable de tous les maux de l'Égypte par la justice et le pouvoir, ce matin, ce sont 6 personnes qui ont laissé la vie. En 2013, il y a encore quelques mois, ces manifestations étaient hebdomadaires et ralliaient des milliers de personnes, mais face aux nombreuses victimes et arrestations, les manifestants sont désormais quelques dizaines. Dans le même temps, les attentats à la bombe contre les forces de police ou les infrastructures stratégiques sont devenus quasi quotidiens en Égypte. Les experts redoutent même que l'aile radicale des Frères musulmans ne se joigne aux djihadistes du Nord Sinaï, qui sont entrés en guerre ouverte avec l'armée égyptienne. Les semaines à venir ne devraient pas être plus calmes en Égypte. Signe d'un temps de guerre, la place Rabah al-Douiya, où plus de 800 partisans des Frères musulmans avaient été tués par la police en moins de 24 heures il y a tout juste 2 ans, a été renommée Hicham Barakat il y a 2 jours, du nom du procureur général d'Égypte tué dans un attentat au début du mois. De quoi mettre le feu aux poudres.
Au Yémen, après 4 mois de combats intenses entre les rebelles chiites Houthis, le premier ministre yéménite a annoncé ce matin la libération de la province d'Aden. Déclaration depuis Riyad en Arabie Saoudite où le premier ministre est en exil. Pour l'instant, aucune source indépendante n'a pu confirmer cette libération. Mais selon François Frison-Roche, chercheur au CNRS et spécialiste du Yémen, on assiste plus à un retrait des Houthis qu'à une victoire des forces armées dites pro-gouvernementales.
Les rebelles Houthis, leur terrain c'est le nord du Yémen, pas le sud. Ce sont finalement, j'allais dire, quasiment des étrangers dans cette partie du pays. Ils ne peuvent pas rester, ils ne peuvent pas imaginer s'implanter et pouvoir diriger un pays ou une zone, le sud, qui leur est particulièrement hostile. Voilà, c'est peut-être une amorce de quelque chose, car les Houthis peut-être aussi pensent qu'ils ne vont pas pouvoir tenir indéfiniment, et que voilà, ils ont montré leur force, ils ont montré sur le terrain qu'ils restent les plus forts, mais ensuite ils doivent aussi s'apercevoir que cela ne va pas pouvoir durer longtemps, et donc il y a nécessité d'amorcer quelque chose qui passerait éventuellement par un retrait de la ville d'Aden, sachant que quand même ils peuvent tout à fait montrer qu'ils restent présents sur le terrain en position de force pour que les négociations se passent au mieux de leur point de vue. Voilà, j'imagine que ceux qui les conseillent, qui conseillent les rebelles houthis, doivent leur dire, bon, voilà, vous avez montré votre force, maintenant, ce n'est pas durable longtemps, surtout qu'ils se heurtent quand même à un pays, l'Arabie Saoudite, qui ne va pas vouloir donner l'impression que c'est une défaite pour eux. Et donc, ils peuvent continuer comme ça à bombarder longtemps.
François Frison-Roche, chercheur au CNRS, joint par Stéphane Robert. Les deux parties ne s'étaient pas rencontrées depuis des années. Le chef du Hamas se serait entretenu avec le roi Salman d'Arabie Saoudite depuis son accession au trône en janvier dernier. Les relations se sont quelque peu améliorées entre Riyad et le Hamas, le mouvement de la résistance islamique qui contrôle la bande de Gaza. Des alliances qui se recomposent face à la menace de l'organisation État islamique au Proche-Orient. Les députés allemands débattent depuis ce matin du principe d'un troisième plan d'aide de soutien à la Grèce, l'un des feux verts de parlements nationaux, nécessaire pour lancer les négociations sur cette aide de plus de 80 milliards d'euros. Le Bundestag, chambre basse du Parlement allemand, est assuré à Angela Merkel. Sa coalition conservateur-sociodémocrate est assise sur une écrasante majorité. Elle peut même compter sur le soutien d'une partie de l'opposition. Mais ce nouveau plan de sauvetage soulève bien des doutes et des interrogations. Nathalie Versieux, vous êtes à Berlin pour France Culture. Y aura-t-il des défections au sein de la coalition qui soutient Angela Merkel?
Oui, ça c'est déjà assuré. On a assisté vraiment à un débat passionné au Bundestag, qui n'est d'ailleurs toujours pas terminé. Angela Merkel et Wolfgang Schäuble ont défendu avec véhémence leur ligne de négociation du week-end dernier, rappelant tous deux leurs convictions européennes, leur détermination à tout faire pour aider la Grèce. Tous deux ont plaidé pour un vote massif en faveur de l'ouverture de négociations pour un troisième plan d'aide, n'hésitant pas pour Angela Merkel même à recourir à un ton dramatique tout à fait inhabituel de sa part. De fait, on attend une cinquantaine de défections dans le camp conservateur pour ce sixième vote du Bundestag en faveur de la Grèce. Lors de l'adoption du second plan d'aide, 32 députés de la CDU avaient voté contre, une centaine d'autres avaient fait connaître par écrit leurs réserves. Le camp des défections a donc augmenté depuis.
Et comment expliquer justement, Nathalie, que ces députés ne sont pas sur la ligne Merkel-Schäuble, la chancelière et le ministre allemand des Finances, qui ont affirmé ce matin que qu'ils espéraient que cette dernière tentative soit un succès?
Mais l'Allemagne, c'est vraiment une démocratie parlementaire. Le rôle du Bundestag est très important. Il a été confirmé par la Cour de Karlsruhe à plusieurs reprises. Les députés passent beaucoup de temps dans leur circonscription où leurs électeurs leur demandent aussi directement des comptes. Les sondages montrent les incertitudes de l'opinion allemande. Un sondage publié ce matin révèle par exemple que 49% des Allemands sont opposés à une nouvelle aide à la Grèce. 46% sont pour. Lundi, 57% étaient pour et 62% contre un Grexit. L'opinion allemande veut une solution à la crise grecque, mais pas à n'importe quel prix. Les Allemands sont solidaires, mais ils sont sceptiques, dans leur écrasante majorité. Les Allemands ont un sentiment de devoir moral envers la Grèce, un sentiment qui est lié à l'histoire, mais ce qui ne passe pas du tout en Allemagne, c'est le fait que la Grèce ait triché pour entrer dans la zone euro avec le fisc, avec le cadastre, et sans que, aux yeux des Allemands, le gouvernement grec ne semble vraiment vouloir instaurer de véritables réformes. Donc pour les Allemands, on veut que la Grèce reste dans la zone euro, mais pas à n'importe quel prix.
Merci beaucoup Nathalie Versieux, en direct de Berlin pour France Culture. Et de son côté, le Fonds monétaire international s'est dit prêt à participer à un plan complet de sauvetage de la Grèce. La patronne du FMI, Christine Lagarde, a reposé aujourd'hui comme condition la restructuration de la dette du pays pour la rendre soutenable. En Ukraine, le Donbass est toujours une poudrière. Près de 6 mois après la signature des accords de paix de Minsk, l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes de l'Est s'affrontent toujours. Des combats ont provoqué en début de semaine la mort de 16 personnes. Et c'est dans ce contexte que le chef de la présidente tournante de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, est à Kiev aujourd'hui. Le ministre serbe des Affaires étrangères doit rencontrer son homologue ukrainien pour parler de ces tensions permanentes dans l'est de l'Ukraine, où les inspecteurs de l'OSCE surveillent l'application de la trêve, François Sauvestre.
Et ces observateurs mandatés après les accords de Minsk produisent des rapports quotidiens. Ces pages très détaillées confirment que les jours se suivent et se ressemblent dans le Donbass. Dans le dernier de ces rapports, publié sur le site internet de l'Organisation européenne, le 15 juillet, il est dit sans équivoque que les violations du cessez-le-feu sont quotidiennes. Exemple, mardi 14 juillet, près de la station centrale du métro de Donetsk, 178 tirs de fusil sont entendus en très peu de temps. Même genre de combat à Lugansk et dans d'autres villes. L'OSCE cite aussi bien les combattants pro-russes que l'armée ukrainienne. Les 12 points du protocole de paix ne sont que partiellement respectés. Des armes lourdes sont toujours en circulation de part et d'autre des lignes de front et selon plusieurs spécialistes de la région, eh bien la situation ne va pas s'améliorer, même avec le surplus d'autonomie accordé hier aux séparatistes. À Kiev, les députés ont en effet voté un statut semi-autonome pour le Donbass et pour 3 ans, histoire de calmer le jeu, ce qui a au contraire provoqué la colère des plus nationalistes et qui ne satisfait qu'à moitié les pro-russes. Les élus des conseils régionaux de l'Est disposent certes d'un peu plus de pouvoir, mais ne prennent pas la main sur les questions de défense ou encore de sécurité.
Merci François Sauvestre. L'Ukraine qui se souvient par ailleurs aujourd'hui des 298 morts du crash du Boeing de la Malaysia Airlines. Punir ceux qui ont abattu l'appareil il y a un an est un devoir moral de la communauté internationale, a déclaré ce matin le président ukrainien Petro Poroshenko. Kiev et les Occidentaux soupçonnent des séparatistes pro-russes d'avoir utilisé un missile sol-air pour abattre l'appareil. Moscou dément catégoriquement. Dans le feuilleton judiciaire de Notre-Dame-des-Landes, la justice valide les arrêtés préfectoraux qui autorisent le début des travaux du futur aéroport de Loire-Atlantique. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté ce matin, Stanislas Vazak, les 17 recours déposés par des opposants au projet.
Oui, c'est une défaite cinglante pour les opposants à l'aéroport puisque le tribunal administratif a balayé tous leurs arguments examinés lors de l'audience le 18 juin dernier. Les juges ont donc suivi intégralement l'avis du rapporteur public en rendant 14 jugements qui confortent la déclaration d'utilité publique du projet décrété en février 2008. Dans le détail, le tribunal considère que les arrêtés préfectoraux attaqués respectent la loi sur l'eau. Lors de l'audience, le rapporteur public avait jugé suffisantes les mesures destinées à compenser les zones humides détruites par le projet. Seule concession aux opposants, les juges demandent à l'aménageur de revoir à la baisse l'emprise des parkings pour sauver 8 hectares de terre. Concernant les espèces protégées, le tribunal affirme que le préfet avait le droit de déroger à la loi pour la construction de l'aéroport et de sa principale route d'accès, une 2x2 voies. Alors bien sûr, l'affaire n'est pas terminée puisque les opposants vont faire appel. Ils s'en expliqueront cet après-midi. Reste à connaître la position du gouvernement. Manuel Valls avait évoqué 2015 pour le début des travaux si les recours étaient rejetés. Il n'est pas sûr que le Premier ministre prenne le risque politique d'évacuer dans les prochaines semaines la ZAD, la zone à défendre de notre Notre-Dame-des-Landes. Les zadistes ont d'ores et déjà annoncé leur intention de résister à une éventuelle intervention des forces de l'ordre.
Merci Stanislas Vazak. Les 3 suspects interpellés lundi par les services de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, vont être présentés dans la journée à un juge d'instruction. Ce matin, le parquet a requis le placement en détention de ces 3 jeunes, âgés de 17 à 23 ans, et qui envisageaient de s'attaquer à une base militaire dans les Pyrénées-Orientales. Le parquet qui a également ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, Follensu.
Oui, les 3 suspects ont parlé au cours de ces 4 jours de garde à vue, confirmant un certain nombre d'informations déjà recueillies par les enquêteurs de la DGSI. L'exploitation du matériel saisi, téléphone et ordinateur se poursuit car les 3 jeunes gens utilisaient des applications et des logiciels cryptés pour communiquer entre eux. Ils se sont d'ailleurs connus sur les réseaux sociaux. Il apparaît notamment un contact entre celui que l'on considère comme l'instigateur du projet, Ismaël, un mineur de 17 ans, et un militant de Daesh en Syrie qui lui aurait demandé de frapper sur place, en France, à défaut de pouvoir rejoindre les rangs des terroristes islamistes. Le jeune homme avait en effet tenté de partir en octobre 2014, mais sa mère, inquiète de sa radicalisation, avait alerté les services administratifs et il faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire. Le projet d'attentat aurait commencé à se construire à partir de ce moment-là et c'est un autre des 3 suspects, prénommé Djibril, qui aurait aurait suggéré la cible, le fort de Béar, où lui-même avait été affecté en tant que guetteur au sémaphore, avant d'être réformé de l'armée pour trouble d'adaptation au métier de militaire. Lui aussi aurait expliqué s'être senti investi d'une mission au service de l'État islamique, tout en niant le projet de décapitation d'un gradé que ses deux compagnons ont en revanche reconnu. Tous les trois avaient prévu de se fournir en armes de poing dans la perspective de cette action envisagée pour la fin de l'année. Aucun d'entre eux n'a jamais été condamné et selon le parquet, leur radicalisation s'est opérée principalement par Internet en visionnant des vidéos de l'État islamique.
Merci beaucoup Florence Turme. Un parachute doré de 5,9 millions d'euros pour Bruno Lafont, le PDG du cimentier Lafarge, une retraite chapeau de 155 000 euros pour Robert Peugeot, l'ancien directeur innovation et qualité au sein de PSA. Ce début d'été est marqué par de nouvelles polémiques autour des avantages plutôt rondelés dont bénéficient certains patrons, des affaires qui sont loin d'être des exceptions, Élodie Forêt.
Il y a aussi ce bonus de 11 millions d'euros pour le PDG de la FNAC qui s'affiche ce matin à la une de Mediapart, ou encore l'affaire Varin, l'ex-patron de PSA, autant de dossiers qui prouvent l'échec de l'autorégulation prônée par les organisations patronales AFEP-MEDEF. Marie-Jeanne Pasquette est journaliste économique et rédactrice en chef du site minoritaire.com.
L'autodiscipline, ça ne marche pas du tout. D'ailleurs, si vous prenez le code AFEP-MEDEF, vous vous apercevrez qu'à aucun moment, il est dit qu'il faut plafonner les rémunérations. Il faut simplement que ces rémunérations soient cohérentes. Or, vous savez que pour être cohérent, il suffit d'être un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous de son voisin. Et comme globalement, le système octroie d'énormes bonus, d'énormes rémunérations fixes et variables, des primes de départ et tout ça, eh bien, on se maintient dans un système. Par exemple, que dit le code AFEP-MEDEF ? Il dit que un patron ne peut pas partir en retraite avec plus de 45% de son dernier salaire. Si vous prenez par exemple le salaire fixe et variable du PDG de Lafarge, vous arrivez à 45% maximum d'un salaire de base qui est de 3 millions d'euros.
Alors la loi Macron devait serrer la vis, tenter de réguler ses retraites chapeau, mais les mesures votées sont encore trop symboliques pour Marie-Jeanne Pasquette. Pour elle, il faut prendre exemple sur la Suisse. Là-bas, c'est inscrit dans la Constitution. Les actionnaires votent les rémunérations.
Pas un vote seulement consultatif comme en France, mais un vote décisif. Si l'Assemblée, si les actionnaires refusent d'accorder une rémunération à un dirigeant, il ne la percevra pas. Donc les patrons suisses ont effectivement des rémunérations assez élevées, mais on voit déjà qu'il y a un verrou qui a été mis pour essayer de calmer le jeu.
Et autre système de verrou en Suisse, le conseil d'administration peut être destitué chaque année par les actionnaires.
Un mot de la météo de ce vendredi 17 juillet. Chaud, le temps est chaud et orageux. Des orages sont notamment à prévoir dans le sud-ouest. Le département du Rhône est en vigilance orange à la canicule. 38 degrés dans la région lyonnaise, 21 degrés à Quimper, 29 à Paris et Marseille, 33 à Périgueux. Fin de cette édition réalisée avec Meta Chiteya. Prochain journal à 18h.